Bonjour et bienvenue dans Impro Ciné Critique numéro 1692. Alors hier on était au 1400,
non, alors,
mais là on... De quoi ?
Le Jude Melon n'est pas encore arrivé, alors on va pas faire une impro ciné comme sur sa chaîne YouTube, on reste sur nos formats classiques, hein Thierry ?
D'accord.
Bonjour et bienvenue dans Impro Ciné Claque. Eh merde. Bah Thierry, tu vois, avec tes conneries là. Ben, bonjour et bienvenue dans
du lobéisme.
Du lobsterisme.
Lobsterisme.
Bonjour et bienvenue dans Certains, les MHO. L'émission qui a plein d'invités pour le deuxième film, mais pas pour le premier.
C'est normal, les premiers sont partis parce qu'ils trouvaient que c'était un scandale d'être là.
Ah ben c'est scandaleux, c'est-à-dire que dès qu'on va voir un film un peu vedette, là on prend un horaire spécial le soir et tout, le vendredi, personne n'est dispo, mais personne. Par contre, dès qu'on va voir un truc le mercredi matin à 9h, là putain les gens se bougent.
C'est clair quoi.
C'est scandaleux, bon bref, scandaleux, vous l'avez compris, c'est notre film vedette, mais évidemment il n'y aura que moi et Thierry sur ce coup-là.
Voilà.
Bravo le féminisme.
On sera pas bien là à la fraîche. Décontracté du... Ah là 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 là.
On s'arrête là, mais bon, on sera pas tout seul tout le temps pendant l'émission, parce qu'ensuite, nous serons suivis par plein d'invités pour aller voir Adoration.
Tout à fait, tout à fait. Alors, on va pas dévoiler les invités, il y en a un déjà, on sait qui c'est. L'autre, vous saurez. Ouh là là, quel suspense. C'est très étonnant. Mais on va terminer avec quelque chose de plus couillu, parce que bon, on parle de nana qui dénonce les mecs, on va parler d'amoureux. On va montrer les mecs qu'elle dénonce, on va parler des bad boys, on va parler de ces gros vilains, on va parler de ces gars qui y vont là, qui vont faire de la castagne, des morts, du money shot, plein de trucs quoi, de la bonne action qui défonce, j'espère.
Oui, bad boys for life,
pour les coquins.
Oh les coquins, mais ça ne sera pas tout puisqu'à la fin on reviendra également sur ce qu'on a vu dans la semaine et nous reco ou pas.
Alors qu'elles se pensaient en sécurité, les femmes de Fox News vont se rendre compte que leur patron n'est pas très gentil. Tout de suite, l'enquête exclusive.
You have to adopt the mentality of an Irish street cop. The world is a bad place. People are lazy morons. Minorities are criminals. Sex is sick but interesting. Ask yourself what would scare my grandmother or piss off my grandfather. And that's a Fox story.
Oh, it makes so much sense.
Women are everywhere. We're letting them play golf and tennis now.
HR's on the phone because you called me a skirt.
Yeah. I gotta read that manual again.
The attitude off camera was even worse. You're a man-hater. Learn to get along with the boys. You're sexy, but you're too much work. I have a whole list.
Will other women come forward?
On commence l'émission par un scandale. C'est un véritable scandale. Il n'y a aucune fille pour parler de ce film avec nous.
C'est ce que j'allais dire, si tu le mentionnais pas, je suis tellement désolé. On est en même temps en concours de circonstances, hein. Hera et Yassa peuvent pas. On a fait un appel un peu trop en retard, du coup on n'a eu aucune dame pour venir avec nous.
Et les grèves nous aident pas.
Enfin bref, on n'est pas spécialement obligé de justifier ça. Je veux dire, c'est juste qu'en tout cas, c'est assez peinant pour nous de se dire qu'il n'y a pas de nana pour parler d'un sujet qui les concerne quand même bien plus que nous. Même si on va essayer d'être juste.
On va essayer d'être juste. Alors Scandale, c'est pas juste un jeu de mots, c'est le titre du film. Scandale, Bombshell en VO, de Jay Roach avec Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. Qui nous dévoile, coulisse finalement, le cheminement qui a poussé à l'affaire Roger Ailes. Roger Ailes, PDG de Fox News, qui est tombé, qui a été viré pour harcèlement sexuel. On suit Charlize Theron, qui joue le rôle de Megyn Kelly. C'est bien ça ? C'est comme ça qu'on prononce ? Ouais, parce que c'est avec un Y, c'est pas facile à dire.
Peut-être que tu l'as mal prononcé, du coup, la sirène c'est de ça. La censure est arrivée.
Je l'ai prononcé. Ouais, bah, Charlize Theron, qui joue Megyn Kelly, journaliste star de Fox News Prime Time, un des fers de lance de la plainte, qui a dénoncé son patron alors qu'elle bossait encore pour lui.
Bah, qui a été celle surtout dont ils avaient potentiellement besoin, puisque les autres, ils avaient des excuses pour pouvoir les museler sous couvert de « bah, tu es un alti censé, donc tu te venges enfin, ». Il y avait plein d'excuses qu'on pouvait leur mettre sur le dos. Et Megyn Kelly est celle qui est restée silencieuse tout du long, tant qu'elle a, parce qu'elle avait peur de pas être soutenue, et quand elle a vu que finalement le mouvement se lançait, bah, elle s'est lancée aussi, quoi.
Et puis ça a permis aussi de délier des langues aussi, ouais, à Fox News même, parce que à l'intérieur de l'entreprise ça voulait pas parler, parce que le mec c'est le PDG, donc il peut un peu, il a pouvoir de vie et de mort sur tout le monde.
C'est ça, ouais, voilà. Et quand l'autre personne, considérée en tout cas par tout le monde comme une personne de pouvoir, alors que finalement elle l'explique elle-même qu'elle en a pas tant que ça, mais considérée aux yeux de tous comme une personne d'énorme pouvoir, leur dit ben parlez maintenant, c'est clair que ça donne plus envie.
Bah, une présentatrice de prime time, c'est important quand même. Nicole Kidman qui joue Gretchen Carlson. La femme à l'origine des poursuites, elle par contre, qui après son licenciement a poursuivi le fameux Roger Ailes, le fameux PDG.
L'instigatrice de tout ce narratoire.
Et Margot Robbie qui joue une jeune journaliste, une jeune présentatrice en herbe, qui elle rêve de faire carrière, qui va être victime elle aussi de ce harcèlement. C'est un personnage fictif. Pour des raisons simples, c'est que les scénaristes et même la production ne voulaient pas mettre de visage sur cette personne, ne voulaient pas faire peser ça sur quelqu'un. Mais ça a été un personnage écrit à partir de vrais témoignages. Ce qui lui arrive a vraiment été relaté dans les témoignages et autres. Et pour jouer le grand méchant de l'histoire, hein, le grand méchant loup, John Lithgow, méconnaissable.
Qui est un incroyable retour, on l'avait vu dans Cimetière. C'est triste de dire que je suis super content qu'il soit revenu pour un rôle comme ça, mais il est merveilleux là-dedans. Et oui, je suis très très content moi, de revoir John Lithgow. Et après, ce qui est super cool, on va parler un peu du reste du casting aussi, c'est que j'ai trouvé le casting extrêmement impliqué et je pense qu'ils ont pris des gens qui déjà sont très engagés. Charlize Theron est à la tête de ce truc et on connaît cette nana pour sa grosse paire de couilles.
C'est à son initiative, hein, c'est sa boîte de prod qui a lancé ça.
Ah bah Charlize Theron, elle est connue pour ça de toute façon. Elle a pas joué non plus dans des trucs très peu engagés avant. Je veux dire, à mon avis, elle va continuer dans cette optique-là, donc ça m'étonne pas. Et mais les gens qui ont accepté de travailler avec elle sont très impliqués dedans et ça se voit et ça fait du bien grâce à ça aussi. Laisse la suite sur la suite du casting.
Il y a Kate McKinnon
qui
vient du SNL et qui joue une journaliste lesbienne à Fox News et démocrate en plus. Alors, voilà, une journaliste lesbienne démocrate à Fox News. Voilà.
C'est pas simple.
C'est pas facile.
Ouais, et on a une petite apparition de Malcolm McDowell qui joue donc le grand patron du truc qui lui enfin c'est le
Rupert Murdoch,
c'est ça, qui est le seul patron de l'empire Murdoch qui détient en gros Fox News, donc il a pas de pouvoir exécutif en fait, mais c'est le big boss quoi.
C'est le big boss, le fameux Roger Ailes, c'est le PDG, donc c'est lui qui a monté la boîte, c'est lui qui a fait de Fox News quelque chose de rentable, mais c'est pas lui qui a le pouvoir, c'est pas lui qui détient la chaîne, donc c'est Murdoch, c'est le proprio, enfin c'est lui le boss, le vrai boss. On avait un peu peur, faut dire ce qui est avant d'aller voir ce film. Parce que, ben justement, on est dans une mouvance de dénonciation, justement. Donc, on avait peur du film prétexte qui veut surfer sur la vague féministe. Il y en a eu pas mal. Et pas que des bons. Surtout après le réel Jay Roach, qui a pas fait que des chefs-d'œuvre. Hein,
c'est sûr que Charlize Theron l'a engagé, enfin en tout cas sa boîte de prod l'a engagé pour son travail sur Trumbo, hein, pas sur Austin Powers ou le remake du Dîner de cons.
C'est ça, voilà. En effet, mais oui, quand on voit ça, on a un peu peur, mais c'est vrai que dernièrement, il s'est plus porté sur la politique.
Ouais, alors en fait, en soi, tu vois, ça reste un petit peu contradictoire malgré tout, parce que certes, il a fait Austin Powers, certes, il a fait... bon, Trumbo, c'est autre chose, hein. Mais certes, il a fait tout ça, sauf que quand tu regardes avec qui il bosse... Ouais, bon, moi ça... Bah, sauf que cela dit, justement, dans Berre-moi, t'as Ben Stiller, t'as Steve Carell dans le remake absolu du Dîner de cons absolument infâme, il y a Mike Myers, il y a Will Ferrell avec qui il a bossé, et c'est des mecs qui en fait ont vachement d'influence et sont très engagés à leur façon, qui vont faire plein de comédies à la con, mais qui vont faire passer des petits messages un peu par-ci par-là, et qui derrière, bah, tu vois, la team Adam McKay avec Anchorman aussi, où c'est très politique, c'est ce qu'on se disait un peu avant, et ces mecs-là, voilà, Jay Roach, il vient pas non plus de nulle part, quoi. C'est aussi un mec qui a fait porter des messages, à mon avis, et qui a dû faire des trucs pour être dans la team Adam McKay, pour être dans ces trucs-là. Et
maintenant que tu parles d'Adam McKay, on lui reproche d'être un sous-Adam McKay, est-ce que c'est le cas?
Dans le style, oui. Pas forcément dans les engagements, parce que j'imagine que là-dessus, ils doivent être potes et donc se ressembler. Dans le style, oui, moi, Trumbo, j'avais dit, tiens, c'est un peu un... C'est pas un sous-Big Short, parce que c'est pas traité de la même manière, mais c'est un peu le gars qui veut dénoncer des choses très justes, il est très bon dans le fond, mais alors, attends, il y va avec les gros sabots et des films 30 fois trop longs qui se perdent un petit peu en chemin. Moi, Trumbo, j'avais un peu eu cette impression-là. Celui-ci ressemble beaucoup plus à ce que fait McKay actuellement avec Big Short et Vice, notamment dans le montage, notamment dans le rythme un peu épileptique et la manière d'être extrêmement... clair et ludique pour le spectateur, quitte à te faire un abécédaire pour les nuls, histoire que tu comprennes absolument comment tout se passe. Et c'est super cool pour ça aussi, quoi.
C'est vrai que c'est très pédagogique. Moi, j'ai trouvé que c'était du Adam McKay light, C'est-à-dire que j'ai pas eu les gros défauts, justement. C'est, on a les petits effets, c'est-à-dire qu'à un moment, quand Margot Robbie dit que sa famille est fan de Fox News et que Fox News a un petit logo qui tourne à cause des gens qui laissaient Fox News en boucle et que le logo restait incrusté sur la télé. C'est le cas sur les vieux écrans plasma. Ça doit encore exister, encore, mais c'est quand on laisse une image fixe trop longtemps, ça reste incrusté sur la télé. Donc il y a le petit logo sur le côté. On a un graphisme au début quand on nous dit que, en fait, tout l'establishment américain est dans le même building. Voilà, on a un petit plan, mais ça va, c'est assez soft, c'est pas répété souvent dans le film. Et c'est assez pédagogique, c'est-à-dire que, bon, quitte à nous perdre un peu au début, on a du mal à se dire que ça va être un film sur le harcèlement sexuel. Au début, on se dit que ça va être un film sur la lutte de pouvoir, sur la hiérarchie, un film sur les médias en général, sur comment se faire sa place, sur le jeu politique qu'il peut y avoir à l'intérieur, surtout qu'on commence sur la campagne américaine, l'élection de Trump. On est en pleine campagne et on a donc Megyn Kelly, qu'on a connue en France parce que Yann Barthès en parlait. Alors je ne sais plus à l'époque si c'était Quotidien ou Le Petit Journal, mais il parlait beaucoup de cette journaliste-là parce que c'est une journaliste star de Fox News qui rentre dans le lard de Donald Trump. Ça l'a rendue très populaire, ça a fait monter sa cote, mais ça l'a rendue, mais on l'a connue jusqu'en Europe à cause de ça.
De toute façon, même le bad buzz auprès des activistes pro-Trump, ça fonctionne, puisque de toute manière, après, ils veulent tellement lui cracher la gueule qu'ils veulent tous savoir ce qu'elle dit pour pouvoir la détruire encore plus, donc sa cote monte quoi qu'il arrive, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, quoi.
C'est ça. Le début du film nous montre ça, nous montre que c'est une journaliste star, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au front contre la ligne éditoriale de sa chaîne en rentrant dans le lard de Donald Trump parce que sur ses propos sur les femmes qui sont intolérables, et donc elle n'a pas peur de lui rentrer dedans et de lui mettre ça, de lui mettre le nez dedans et de s'opposer à lui. Donc on montre que quand même quelqu'un que soit, et que même elle qui affronte frontalement Donald Trump, sur cette histoire de harcèlement, c'est pas si frontal, c'est pas si facile que ça.
Mais après, c'est vrai qu'en soi tu disais qu'on pensait pas que ça allait parler de harcèlement sexuel, mais après le jeu de pouvoir et tous ces jeux-là, c'est un film là-dessus au final aussi, parce que de toute manière, dans toutes ces institutions-là, le harcèlement sexuel sur les employés fait clairement partie du jeu de pouvoir, en fait. Au final, c'est quelque chose qui est établi, qui fait limite partie des mœurs et qui fait partie des murs de toutes ces grosses institutions. C'est en grande partie ce que ce film essaye aussi de dénoncer, de détruire. Moi, je me rappelle quand on avait parlé, tu sais, du documentaire, c'est sur Weinstein, où on se disait le problème, c'est que ça nous montrait juste le mec et ça nous montrait pas comment fonctionnaient les strates de pouvoir et comment on allait faire taire les gens. Et ce film montre ça, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est génial, c'est la manière dont il gère aussi l'espace de manière très ludique, dont il gère les étages, en fait, pour te montrer que tout est par strate, c'est vraiment par couche. Et donc, du coup, il y a l'ascenseur qui est un point global. Du coup, il met énormément l'accent. Tu as toujours les scènes dans l'ascenseur où les gens ne parlent pas, mais on regarde toujours qui est dans l'ascenseur pour comprendre qui a le pouvoir selon qui monte à quel étage. Et ça, j'ai trouvé ça assez génial. Parce que ça te montre toujours qu'il y a les gens qui sont en dessous du sol, et tu as le deuxième étage qui décide, le huitième étage, c'est les patrons. Et du coup, c'est selon ce que tu arrives à faire, là où tu es pour différents intérêts. Ça, j'ai trouvé ça génial.
Oui, et le côté de strate. Mais ce qu'on a du mal à imaginer, et ce que nous montre le film, c'est que, en fait, tout est très cloisonné. Et déjà, tout le monde se tire dans les pattes, parce que c'est ultra concurrentiel. Surtout une télé comme ça, Fox News, où on se bat pour sa place, surtout en tant que présentateur. Il y a un mercato permanent, on s'échange les places. Et donc, on ne sait pas à qui faire confiance, on ne sait pas à qui parler. Et quand on a les trois héroïnes dans l'ascenseur, même si elles sont dans le même ascenseur, on pourrait dire qu'elles pourraient parler entre elles et ça serait girl power. Voilà. Et en fait, non, pas du tout. C'est très cloisonné parce qu'on ne sait pas si on peut parler à l'autre, si on peut lui faire confiance. Et il y a cette peur permanente aussi qui est là, qui est bien expliquée, je trouve.
On les voit se mettre des pressions mutuelles sur le fait de ne pas parler. Et il y a un passage qui est assez intéressant où tu as donc une des maquilleuses qui donne les informations à Megyn Kelly et qui lui dit, lui donne finalement une liste de noms en lui disant telle et telle personne, elles ont eu des problèmes, tu peux potentiellement aller leur parler. Elle recontacte une ancienne présentatrice qui est dans une annexe de Fox News qui est bien foutue au placard en fait, parce que elle a eu des soucis et qu'elle a pas parlé, mais en tout cas on l'a bien relayée au second plan, mais on l'a pas virée pour qu'elle parle pas. Et la seule chose qu'elle lui dit avant de parler, avant de lui donner les noms qui ne sont pas, qui c'est pas Roger Ailes mais c'est d'autres personnes, et avant de lui donner ces noms là elle lui dit il y a des micros partout, Roger Ailes est tellement paranoïaque, et ça faudra qu'on en parle parce que ce personnage c'est un sacré personnage, il est tellement paranoïaque qu'il crée des écoutes, il crée des enregistrements, il demande à des personnes de lui rendre des comptes, et du coup en fait en gros même des personnes qui ont des problèmes sont sous ce joug là et du coup ne peuvent pas te parler, donc en gros fais attention à qui tu parles parce que ça se trouve une personne qui serait en vue de te parler va derrière devoir rendre des comptes et te dénoncer. Et c'est là que tu vois, oui, qu'en effet, voilà, c'est des pressions de pouvoir de partout, quoi. C'est,
jusqu'à la hotline interne. Ouais, si jamais il y a des harcèlements, vous pouvez en parler à la hotline de l'entreprise, bien sûr, on va vous écouter. Et en fait, c'est juste un enregistrement, le patron qui t'enregistre et qui peut te mettre au placard si tu parles, quoi. Ouais, mais personne ne vient se plaindre. Ben oui, normal.
Et c'est là que tu vois à quel point ce truc est ultra malsain, parce que t'as les gens qui justement dénoncent ça en lui disant, mais attends, tu crois qu'elle se serait pas plainte, il y a une hotline quand même. T'es tellement englobé dans ce système qu'en fait, ce qu'on te fait croire ou non, on dit tiens, regarde, c'est du bon pain. Mais non, c'est du caca. Non, c'est du bon pain. Ah, d'accord, c'est du bon pain. C'est exactement ça. Ce que les gens, bah attends, il y a une hotline, pourquoi elle l'a pas fait? Et quand la personne te démonte en t'expliquant, bah tu te rends compte qu'en fait, t'appelles ton propre patron pour lui faire ce que tu m'as fait tout à l'heure, c'est pas terrible. Et lui, il va prendre une autre voix, il va dire d'accord, je prends en note, je lui ferai passer le message. Et voilà. Et quand elle te démonte ça, tout le monde la regarde. Ah, bah oui, c'est clair. Eh ben oui les gars, ouvrez les yeux bordel, parce que là vous êtes en plein dans le système, quoi. Je veux dire, quand elle dit bah attendez, c'est pas possible qu'il se passe ça, parce que elle c'est sûrement une connasse, hein. Bah oui, mais réfléchis, mais toi c'était pas arrivé avant. Oui, mais c'est pas pareil. Voilà, c'est bien, tu vois le système, voilà, de langue qui se délie au fur et à mesure, quoi.
Et puis il y a une détention interne, quoi, quand tu vois les présentatrices qui mettent des t-shirts moulants Tim Rogers.
Ah, ça c'est chaud aussi, quoi.
Et parce que oui, parce que le truc c'est que le harcèlement est justifié de manière professionnelle. C'est-à-dire que les petits castings où il faut remonter sa jupe, faire des tours sur soi-même, montrer qu'on est sexy, c'est parce que c'est un média visuel. Et donc il va justifier ça parce que les filles qui vont passer à l'antenne, en fait, il faut occuper les gens en permanence. C'est une chaîne d'infos en continu. Donc pour occuper les gens en permanence, qu'est-ce qui intéresse les gens? Les jolies filles. Donc on va dégager les tables, on va montrer les jambes.
C'est ça, c'est vrai qu'il t'explique que oui, justement, il y a les bureaux dégagés et on voit les jambes des filles, et que du coup, c'est ce qui fait que l'audience de Fox News a augmenté, et c'est ce qui fait que cette chaîne marche. Et le pire, c'est que c'est probablement vrai. Et c'est là que tu te dis, putain, c'est un système qui se bouffe la queue, parce que au final, les téléspectateurs, les actionnaires de ce genre de trucs sont aussi indirectement, et par pas par complaisance, mais par habitude, complices de ça, en fait. Parce qu'ils ont leur habitude de regard et qu'on les a toujours habitués à ça, qu'ils sont fait bâtir, c'est plus sympa là, et qu'ils se rendent sûrement même pas compte que c'est pour ça, mais que du coup, ça fonctionne, oui, sûrement grâce à ça. Et c'est horrible, quoi. Ah, c'est affreux.
Ce Roger Ailes, quelqu'un qui a des méthodes très effectives, et qui, on parle de Donald Trump avec ses fake news, mais le Roger Ailes en question, il en balance tout le temps. Les mecs, pendant l'affaire, pendant qu'il est accusé de trucs, il balance quand même des fake news dans sa propre boîte pour que les mecs, entre eux, ils flippent tous les uns les autres et que tout le monde ait la pétoche.
Alors après, entre les fake news et le fait que le mec est totalement parano, genre à un moment où il était persuadé, enfin ils expliquent qu'ils ont dû appeler les fils de Murdoch là, pour le calmer, parce que le gars était persuadé qu'il allait avoir un attentat, et du coup il était en train d'hurler à tout le monde, il voulait fouiller tout le courrier, et visiblement...
C'était en plein 11 septembre aussi, un mois après.
Non, bien sûr, mais visiblement ce genre de truc, il montre qu'il le faisait très régulièrement, oui, et qu'il était tout le temps parano, quoi.
À un moment, il dit, oui, je pense que la famille Obama veut me faire assassiner. Voilà. Oui, bien sûr, oui.
Peut-être en soi, hein, mais après, il le ferait sûrement pas. Ils en ont peut-être envie, par contre, parce que t'es un gros con.
Il le ferait pas pendant la campagne de Trump, quoi. Il l'aurait fait pendant leur mandat. Bon.
Ce qui est super intéressant, c'est du coup le personnage de Margot Robbie, en fait, qui va être la troisième narratrice. Et ce qui est super cool, c'est de montrer son parcours. Son parcours qui est au final le parcours de la victime qu'on te montre. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est que ça t'élimine, ça te détruit le cliché de la caractériste. Cet argument du « non, mais des fois, c'est elle qui demande, et c'est elle qui cherche, et c'est elle qui provoque, et voilà. » Et là, on te montre la nana qui est contrainte, forcée, tu vois sa terreur, tu vois le côté où elle a l'impression que de toute manière, si jamais, en gros, elle refuse les avances du gars, il va se jeter sur elle et qu'elle sera morte dans un caniveau le lendemain, c'est son regard. Margot Robbie est incroyable là-dessus, et c'est cool parce que ça t'élimine ce cliché de la caractériste, en fait, qu'il faut éliminer depuis longtemps.
Gros travail d'acting chez les actrices, gros travail de maquillage aussi pour ressembler le plus possible aux actrices. Charlize Theron est méconnaissable.
Ouais, on a regardé les photos de Megyn Kelly là à l'instant, parce que moi je connaissais pas Megyn Kelly, et en effet, je me suis même demandé si quand j'étais pas Megyn Kelly sur Google, j'étais pas sur les photos du film, quoi. Donc ouais, c'est quand même que ouais, non, il y a même Roger Ailes, c'est pareil, les deux, je pense que c'est vraiment les deux plus travaillés niveau maquillage, quoi.
Voilà, d'ailleurs, faut noter que donc le film Bombshell, donc Scandale, et nommé 3 fois aux Oscars, Charlize Theron pour rôle principal, Margot Robbie pour rôle secondaire, et les maquillages et coiffures, ce qui se comprend.
Les maquillages, c'est clair que c'est indéniable qu'il y a un travail de taré là-dessus.
Ouais, parce que Charlize Theron ne voulait pas qu'on voit Charlize Theron. Elle voulait pas se voir dans la glace aussi.
Ouais, c'est de plus en plus compliqué de toute façon aussi de ne plus voir les personnes derrière, surtout quand tu commences à avoir une énorme renommée comme ça. Donc c'est très bien qu'elle ait pris cette initiative de dire je vais pas vendre pour ma gueule, je vais vendre pour l'histoire, quoi.
Après, c'est pas la première fois qu'elle est méconnaissable dans un film.
C'est pas la première fois, en effet. Non, mais c'est une actrice très aboutie là-dessus qui travaille ça. Et j'espère qu'elle continuera à le faire, d'ailleurs.
Alors, dans l'épisode précédent, je disais que je regarderais en pensant à Nina Wu, que j'ai vu la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, enfin, bref. C'est vrai, j'avais dit ça. Et alors, bon, alors, ici, la différence, c'est qu'on ne voit pas tant le harcèlement proprement dit, on le dit, on le voit, on l'entend à travers les témoignages. Alors que Nina Wu, c'était plus direct, c'est-à-dire qu'on voyait l'actrice se faire gifler, se faire harceler, se faire sauter dans la chambre d'hôtel. Donc, en fait, ce sont deux films qui parlent de la même chose, mais qui ne prennent pas le même angle. Et donc, bon, en fait, les comparer n'a pas trop de sens. C'est deux facettes, en fait. Il y en a un qui va montrer l'acte en lui-même, alors que l'autre va plus montrer le combat, les conséquences, comment est-ce qu'on se révèle comme ça, et qui va mettre des mots sur ce qu'on pense à ce moment-là. Le côté surexpliqué des Américains, ici, il est un côté pédagogique.
C'est un passage qui est sympa, c'est un passage d'entrevue avec une nana à qui on vient d'offrir un job dont elle rêvait, et que le gars lui fait comprendre, bon, maintenant que t'as le job, c'est parti, c'est la contrepartie. Et en fait, à chaque dialogue, c'est contrebalancé par ses pensées. Donc elle est là, elle fait, oh putain, je dois lui dire que c'est un connard, attends, je vais lui dire gentiment. Non, attends, t'es mon ami, calme-toi deux secondes, on va rester potes. Voilà.
Et si on a des rapports professionnels.
Voilà, et c'est génial en fait, et si tu veux, elle fait, ah putain, il va trop loin, ok, je me casse. Et là, du coup, voilà. Et c'est assez marrant parce que ça te montre aussi, ouais, justement, qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là, quoi. Et c'est. Ça n'a pas besoin de mettre des mots, quoi.
Et le plan d'après, elle fait son carton.
Et le temps d'après, elle fait son carton parce qu'elle est virée, puisqu'elle a refusé. Et ça voilà, c'est très simple en fait. Et ça, t'as pas besoin de t'en montrer plus, quoi. Il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'à la main sur la cuisse ou quoi que ce soit. Non, pas dans ce cas-là. Mais même dans le. Au final, moi, je vais dire, j'étais extrêmement mal à l'aise pendant la scène, justement, que tu disais quand on t'en montre les castings où il lui demande de relever la jupe. Tu le vois qu'une fois, ça. Mais ça suffit à ce que tu te sentes extrêmement mal à l'aise et que tu ressentes absolument tout. Et il n'y a pas besoin d'en montrer plus. De toute façon, le ressentiment est là. Enfin, le sentiment est là, quoi.
Ah, le malaise quand. Quand il demande au personnage de Margot Robbie de monter sa jupe petit à petit.
Le regard perçant de Liv Go. Enfin, t'as même le passage où elle se retourne. La respiration, elle se retourne et elle part. Et il y a un petit bout de langue qui sort et qui se lèche un peu la lèvre. Mais c'est pas en mode je me lèche les babines. C'est vraiment. Ah tiens, je me mets la lèvre. Sauf que c'est pile au moment où elle se retourne et tu sens qu'il fait une légère avancée pour mater son fion. Et là, tu fais putain, quoi. Et. Voilà, ne serait-ce que ça, des petits gestes en fait. Le film, c'est marrant parce qu'il a une apparence qui peut sembler au tout début, c'est ultra rentre-dedans, tu te dis ça va être un peu vulgose à la McKay justement. Et au final, dans les passages où il pouvait y aller en mode regarde comme ils sont dégueux, eh ben il est hyper subtil. C'est fou.
C'est dingue, ouais. Non, c'est une excellente surprise, ouais. Ce bombshell, ce scandale. J'avais peur, ouais, justement, d'avoir un manichéisme, d'avoir les gros clairons, tu vois. Ouais. Le féminisme, girl power à fond, et en fait non, pas du tout, c'est quelque chose qui nous montre, c'est un film qui nous montre que c'est pas si simple que ça, et que c'est pas fini d'ailleurs, et que même si il y en a un gros qui est tombé, ça a pas libéré les pensées pour autant. Il y a aussi un dialogue de fiction qui est intéressant, c'est quand le personnage de Margot Robbie parle au personnage de Charlize Theron, Megyn Kelly, donc c'est un personnage de fiction, mais c'est un peu la jeune qui se fait harceler. Elle lui dit, toi quand tu t'es fait harceler, pourquoi t'as rien dit, et ton silence on le prend dans la gueule. Et en fait, bon, alors, d'une certaine manière, elle a raison, mais elle aussi, elle a des choix à faire. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est pour montrer que la situation, elle s'envenime par les actes de chacun. Et en fait, on peut en tirer plusieurs conséquences. Enfin, c'est très compliqué et c'est lourd, quoi. Je pense que c'est un film que je reverrai peut-être, mais plus au calme.
Une fois que tu t'es pris ça dans la tronche, tu peux passer un peu plus de temps plus calme pour l'analyser. Mais oui, mais ça, de toute façon, c'est vrai que ça fait énormément penser aux questions que tu peux te poser en te disant. Parce que tu peux même avoir. Bon, les avocats là-dessus sont très transparents. J'ai envie de te dire clairement ce que tu risques. Alors que tu peux avoir plein de soutiens qui te disent non, mais t'inquiète pas, attends, lui c'est un gros porc, tout le monde va l'accepter, ça va passer. Tu vas t'en sortir, si lui il tombe, voilà. Et là, il y a quand même le côté, tout le monde est quand même persuadé que si ce mec la tombe, tout le monde tombe. Et même les nanas qui n'ont rien dit ou les nanas qui n'ont rien subi, en gros, tout le monde perd son taf. Et ils le disent, hein, ils l'accusent même de lui dire, t'en te rends compte que parce que tu veux ouvrir ta gueule et parce que tu veux pas qu'un mec comme ça, vu qu'il est si peu nombreux parmi tant d'autres, s'en sorte.
Pour se rendre à quel point c'est puissant, c'est le mec qui a fait Fox News. Ouais. C'est-à-dire que Fox News, c'est lui. C'est lui qui dirige, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a monté, qui est parti de zéro, qui l'a monté. Donc, c'est-à-dire que si ce mec tombe, dans la tête de tout le monde, Fox News tombe. Ouais, c'est donc c'est inimaginable que ce mec tombe en fait.
Non, voilà, c'est ça. Et donc du coup, tu vois, quand tu te prends dans la tête, enfin, ce discours qu'on pourrait te répéter, on n'hésite pas à parler parce que t'inquiète pas, tu risques rien. Et ben là, ce film te rappelle que ouais, mais tu restes une femme. Une femme en 2019, tu parles, c'est encore contre ta gueule. Parce qu'il y aura, on te mettra toujours en doute. Donc c'est intéressant de justement montrer ce côté, elle a peur de ça aussi, parce que justement, comme tu le disais, les pensées ne sont pas encore libérées. Donc il y a le côté, d'accord, certes je parle, mais est-ce qu'on va vraiment me croire? Comment ça va se passer? Et ça te le montre aussi, je trouve. Et ce poids-là pèse un peu tout le temps.
Oui, alors là en plus, c'est le cas de Fox News qui est un cas particulier, parce que c'est vraiment les super conservateurs C'est donc là c'est le cas particulier. Non mais oui, puis il y a le poids de l'individu déjà, et en plus il y a le poids de la femme, enfin du fait d'être une femme, et oui, et le d'être dans Fox News qui est le temple du conservatisme aux États-Unis.
Choisi Fox News, bon, enfin, en même temps, c'est une grosse affaire et le mec est tombé, mais c'est vrai que Fox News, c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, là, tu peux taper facilement dessus, on sait pertinemment ce qu'il y a à la base, quoi. Quand tu vois Rupert Murdoch qui reprend la chaîne et qui essaie, ils sont tous là en ah, trop cool, oh merde, c'est lui à la place, mais il est pas mieux, lui.
Scandale, Bombshell, ben une bombe, on vous le recommande. Voilà, après on va rester soft hein, sur les jeux de mots. On vous le recommande tout simplement.
Viens. Pareil qu'elle est très malade.
Il faut que tu gardes tes distances.
Je suis pas malade, tu sais. Je sens juste quand les gens me veulent du mal.
Et tu sens quoi pour moi?
T'es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée.
Gloria! C'est un peu de déception, on lui a piqué son jeu de mots, il veut pas le faire.
La semaine dernière, on avait vu un Black Mirror à la française. Cette fois-ci, on va voir un Moonrise Kingdom à la belge. Ben, j'aurais bien voulu voir ça, parce que c'est pas exactement ça. Adoration de Fabrice de Wells, avec Thomas Gioria, Fantine Ardue, hein, et Benoît Poulvorde. Fait 20 minutes à la fin.
Oui Thierry. C'est marrant que tu fasses ce parallèle là, parce que justement on fait un dossier Saint-Valentin actuellement, et j'ai écrit sur Moonrise Kingdom, et j'ai écrit qu'en plus ça avait sa place parce que ça faisait un parallèle avec le pitch de départ d'Adoration. Maintenant que j'ai vu le film, je vais retirer cette intro et la changer.
Avec moi des amoureux du cinéma, donc Thierry vous l'avez entendu, Hera, on parle d'amour, il y a Hera, normal.
Eh oui.
Mais pas que, on parle folie, ben, il y a Marwan de Doc Ciné.
Ah bah salut hein. Après le traumatisme de certains films très mauvais, j'ai voulu découvrir un film un peu plus de qualité.
Plus prometteur déjà.
C'est ça.
Et avec nous un vieux copain, Jus de Melon. Salut, comment ça va?
Salut, bah ça va super bien, merci de m'inviter. Enfin, je me suis un petit peu invité aussi, hein, pour ce film qui est uniquement distribué sur Paris, dans la région parisienne.
Et on va très vite voir pourquoi.
On sent qu'il y en a qui
n'a
pas aimé.
Ok, on se met d'un côté les anti les pour voir à peu près où on se place. Parce que...
Ouais, bah, qui est pour là, qui a bien aimé, vite fait?
On est trois, avoir bien aimé, vous êtes deux.
Bon, très bien. Non, on est deux plus les gens qui se sont barrés très vite de la salle.
Ça fait... Vous auriez pu être plus avec ceux qui sont partis, mais qui sont revenus. Ah ah, la feinte.
Ouais, mais bon, bref. Ils n'ont pas vu le film. Pour s'ils ont vu du film. L'histoire de Paul. Paul qui est un garçon qui aime les oiseaux, qui aime la nature, qui est un peu solitaire, et qui fait la rencontre de Gloria, une jeune fille internée à la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Et tous les deux, amoureux l'un de l'autre, vont s'enfuir pour vivre leur amour dans la forêt et s'échapper loin de tout cela. C'est beau, c'est filmé en 35 mm, en gros plan, en très gros plan, parce que ça donne de l'intimité.
C'est ça.
Alors... Thierry, toi qui es tombé amoureux de ce film, qu'en as-tu pensé?
Je dois reconnaître que je pouvais pas non plus imaginer qu'on pouvait faire encore plus de gros plans que Dolan. Et attends, là-dessus, là-dessus ça y va, mais vu qu'en plus les plans bougent partout, forcément ça, c'est pas le même genre de plan, c'est très intrusif parce qu'en fait on est dans l'intime, mais à la fois on est dans un... Je trouve qu'en fait Fabrice Duwels veut à la fois nous montrer de jeunes qui s'aiment et qui veulent s'enfuir, mais à la fois, vu qu'il y a un côté malsain derrière, il veut aussi ne pas nous le montrer. C'est pour ça que les gros plans sont très intrusifs, on te dit tu vas rentrer dans un intime et ça va pas forcément être mignon. Là-dessus c'est assez respecté. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, hein. je vais pas te mentir, mais une fois que je suis rentré dedans, c'était quand même vraiment très agréable. C'est très particulier, le jeune totalement sans repère qui ne peut exister que justement s'il a... une mission à accomplir. Alors en l'occurrence au début c'est sauver un oiseau, aider les gens, à aider potentiellement sa mère avec les patients, et du coup après ben, il voit une gamine qui est en détresse, il sait pas trop exactement pourquoi, et donc il va s'enticher d'elle. C'est très en fait c'est des strates, c'est très cyclique, et à chaque cycle soit tu sors du truc, soit tu rentres de plus en plus dedans, dans la névrose de Fantine, donc du coup de Gloria, ou dans l'incompréhension mais la passion de Paul. Voilà, je sais pas, c'est très difficile à expliquer, en fait, c'est juste un ressenti global qui fait que j'ai été totalement pris dedans, c'est agréable.
Hera veut réagir.
Tu parles d'amour, tu parles de passion, je l'ai pas vu. C'est peut-être la première chose qui m'a dérangée en fait, c'est que ça s'appelle adoration. Je m'attendais à voir une histoire de deux personnes qui effectivement apprennent à se connaître, qui apprennent à s'aimer, qui se regardent avec un regard plein d'amour, etc. Et je ne vois rien de ça. Je vois deux acteurs qui ont du mal à rentrer dedans, je vois deux acteurs qui ont du mal à se comprendre et qui ont du mal à interagir entre eux. Et je vois pas du tout, surtout au début, l'élaboration de leur relation. Donc tu les vois compter fleurettes dans un champ, super, mais tu les vois pas apprendre à se connaître, tu les vois pas tomber amoureux, tu les vois pas devenir passionnés l'un pour l'autre. Alors oui, ça peut s'expliquer parce que le personnage de Paul est un peu perdu, comme tu le disais, et que du coup il s'accroche à ce à quoi il peut s'accrocher. Mais ça va pas non plus dans l'autre sens. Le seul moyen de comprendre qu'ils s'aiment, c'est parce qu'ils se le disent, mais on ne le voit pas.
Alors après, il faut dire que les deux acteurs ont 12 ou 14 ans, hein, truc du style, donc ils sont jeunes, c'est des jeunes ados les acteurs. Hein.
Tu parlais de Wes Anderson, les deux acteurs de Moonrise Kingdom sont jeunes aussi.
Et dirigés. Bon.
Après, pour rebondir sur ce que dit Hera, je trouve qu'au contraire, c'est un amour inconditionnel. Donc c'est un amour qui fonctionne que sur un principe. Pour celui de Paul, c'est pour sauver quelqu'un, continuer à sauver quelqu'un qui lui ressemble. Elle est en dehors du monde des adultes, il y a quand même une vraie composante, c'est que c'est les enfants et les adultes, et là c'est sauver quelqu'un qui lui ressemble. Pour le personnage de Gloria, elle l'aime parce que c'est la seule personne qui souhaite le sauver. Et c'est juste des composants qui font que c'est un amour mais inconditionnel, ça ne peut pas s'expliquer, c'est ça?
C'est complètement conditionnel du coup. C'est complètement conditionnel du coup, si c'est parce que tu sauves l'autre et parce que t'es sauvé, c'est conditionnel à mort, c'est pas inconditionnel comme amour.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, l'amour se construit sur plusieurs principes, tu vois. Et là, c'est juste sur une chose. Et tu peux pas construire un amour conditionnel sur une chose. Là, pour le coup, c'est que ça, en fait. Ils s'aiment parce que l'un répond à un besoin de l'autre.
Jus de melon.
Alors, c'est marrant parce que c'est de l'amour sans être de l'amour, en fait. Parce que le personnage, enfin pour moi, enfin, je l'ai ressenti comme ça, c'est le personnage donc de Paul. Il ne connaît rien de la vie, on le voit d'ailleurs dès le début du film. Il a été surprotégé par sa mère, etc. Et il aime Gloria en face juste pour l'idée de ce qu'elle est. Mais il ne sait pas vraiment ce qu'est l'amour. D'ailleurs, on voit qu'il est très hésitant là-dessus. Et pour moi, c'est même pas un amour, c'est un amour impossible, en fait. Donc on voit bien que de toute façon il y a une connexion entre les deux, mais c'est pas un véritable amour. D'ailleurs on est dans un truc totalement irréel dans le film. C'est peut-être parce qu'on voit tout du point de vue du gamin justement, qui est dans un monde à lui, un petit peu autiste hein, quelque part. Et donc t'as l'impression que tout est irréel, tous les personnages qui gravitent autour sont irréels ou on va dire surfaits par moments. Du coup pour moi l'amour il n'existe pas en tant qu'amour qu'on peut connaître. Quoi. Il découvre un amour qui en fait n'existe pas vraiment.
Oui, l'auteur se veut très onirique, déjà rien que dans la citation de début. D'ailleurs, ça confirme mes préjugés sur le film avant d'y aller. Je me suis dit, c'est un film, il va falloir prendre des mouchoirs, parce que ça va être de la branlette intellectuelle pendant 2 heures. Commencer par un panneau citation, ça me donne juste raison.
Oh non.
Si. Et après, on a un parti pré-artistique qui est le gros plan. Mais ce qu'on n'a pas dit sur les gros plans, c'est qu'ils sont ultra zoomés. Ça joue avec le zoom en permanence. C'est très intrusif, il n'y a absolument pas de trépied et ça tremble énormément parce que le zoom accentue le tremblement. Donc on y voit absolument que dalle, tout simplement. Et non, et puis en plus, c'est pas géré. Enfin, il existe d'autres valeurs de plan que le gros plan et le très 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 gros plan. On a droit à 2 plans larges dans tout le film, merci quoi. Enfin, c'est insupportable.
C'est un parti pris. D'ailleurs, à certains moments, la caméra se pose et on a voilà. Mais c'est pour montrer une certaine folie aussi.
Oui, mais c'est tout le temps. Si tu veux, il y a pas de gradation. Ah, au bout d'un moment, ça veut plus rien dire. Je suis d'accord pour dire qu'il y a l'enfermement, il y a la folie, il y a l'intimité, il y a tout ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, quand on surligne trop tout le temps, ça veut plus rien dire. Tu sais, c'est quand tu mets du fluo sur toute la feuille. Ça ne sert plus à rien.
Je suis assez d'accord. Là-dessus, j'ai pas trouvé ça beau non plus en termes de mise en scène. Après, je comprends le parti pris. J'accepte, et moi je suis capable d'accepter le parti pris si je vois dans quoi ça souligne en termes de symbolique, pourquoi pas.
Là, il fallait un sac à vomi, là, au bout d'un moment, ça se tremblait trop. Non, sérieux, vraiment, j'étais pas bien par moment, j'avais le mal de mer, quoi. Et pourtant, ils sont sur une péniche, ça bouge pas.
Oui, bah, je comprends que tu l'aies vu comme ça. Y a un point que je voudrais souligner, puisqu'on parlait des plans et de la mise en scène, c'est le fait que, parce que c'est très compliqué de souligner l'intensité soit par le jeu soit par les plans puisque justement ça bouge tout le temps, qu'on est tout le temps dans cette espèce de confusion, et bah il y a une espèce d'obligation de rajouter de la pluie. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a une putain de tempête qui tombe, et après quand on plonge dans un espace où on sort des crises de folie de la nana, ça redevient beaucoup plus calme. Mais moi j'ai eu un peu la sensation que c'est comme s'il n'y avait pas d'autre moyen que de rajouter des éléments extérieurs pour faire comprendre que là bah fallait être un peu plus intense. Donc j'ai été un peu dérangée par ça, genre bon je sais pas comment filmer l'intensité, bah je vais balancer de la grosse pluie et puis ça va rajouter du gros blabla, du gros bruit, et puis ça va accentuer mon propos. Ouais, il y a peut-être autre chose quoi.
Oui, mais il y a une importance de l'eau aussi dans le film, parce qu'il y a une dualité d'ailleurs, parce qu'à un moment c'est l'eau qui calme Gloria, mais à certains moments l'eau qui montre aussi la tempête et l'effusion, on va dire les émotions. J'ai eu l'impression, alors c'est pas un spoil de dire ça, mais pendant le film je me suis dit, est-ce qu'on va pas nous sortir un truc, tiens c'est du point de vue du gamin qui se fantasme des trucs. Il y a certains moments d'ailleurs on voit des rêves. Hein.
Et essentiellement du point de vue du gamin, c'est pour ça que la caméra est très rapprochée.
Oui, c'est pour ça, oui. Et puis bon, il y a la perte de l'innocence aussi. Mais c'est assez paradoxal parce que plus il perd en innocence, plus la caméra se stabilise à certains moments. C'est assez.
C'est parce qu'on s'habitue.
Oh, oui, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est un film sur la perte de l'innocence complètement, hein, et dans tous les sens du terme hein, là-dessus. Hein.
On parlait de la mère qui entretient l'Oedipe aussi, ça c'est bien. On est pas mal.
Je vais revenir vite sur ce que tu disais sur l'amour. En fait, moi, la relation entre les deux, oui, en effet, moi j'ai pas vu de l'amour, et c'est. Mais en fait, j'ai vu le titre du film, j'ai vu de l'adoration. L'adoration, je vais faire le parallèle avec le divin, même si là n'est pas forcément le sujet, mais c'est le rapport qu'on peut en avoir. C'est le côté. Quand tu, par exemple, étais croyant, et comme dit, tu aimes quelque chose que tu ne connais pas, dont tu ne comprends pas parce qu'on te dit de ne pas le comprendre, on te dit juste tu dois l'aimer. Du coup, bah c'est ça l'adoration en fait pour moi, le côté ça te fascine et du coup tu es totalement pris par cette espèce de passion que tu ne comprends pas, et c'est aussi pour ça que bah, le film n'a pas à l'expliquer. Ça commence comme un coup de foudre, les deux se télescopent et à partir de là, Paul est déjà pris parce que Paul découvre autre chose, quelqu'un d'autre l'a touché comme si personne lui avait mis la main sur l'épaule toute sa vie. Et après ça parle aussi de codépendance évidemment, c'est pour ça que ça parle de solitude, de personnes seules qui se retrouvent à deux. Et ça on le voit avec le parallèle du personnage de Hinkle, qui est le personnage de Benoît Poulvord, qui rencontre à un moment et qui va leur montrer des oiseaux cendrés, je vais pas dire galinettes. Du coup on l'a dit, et qui leur dit justement que ces oiseaux là restent à deux quelles que soient les épreuves qu'ils ou pas, juste qu'ils choisissent un partenaire et ils y restent. Et lui du coup étant donné qu'il est persuadé que l'âme de sa femme est par là, il restera là toute sa vie, il sera seul et malheureux mais persuadé de pas l'être en fait. Et du coup je pense que c'est ça, c'est plus des personnages qui n'ont pas envie d'être seuls et qui vont tout faire pour ne pas l'être, et c'est tout. Et il n'y a pas besoin de plus, et du coup, moi je me suis pas. Enfin, voilà, faut se laisser porter quoi.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est... le truc, c'est que l'adoration, je l'ai pas vue non plus. Moi je reste là-dessus, je la vois.
Non, la fille, elle a une robe rouge au haut, hein.
Thomas Nocine présente.
Non, j'ai malheureusement pas vu non plus l'adoration. Je voulais juste faire un petit parallèle avec un film que j'aime énormément qui s'appelle Bye Bye Blondie de Virginie Despentes, où justement il y a cette rencontre entre deux femmes dans un hôpital psychiatrique quand elles sont ados, et on les retrouve donc adultes des années plus tard, et où on va venir raconter leur histoire. Et il y a cette manière dont elles tombent amoureuses, dont elles se rencontrent, dont elles sont passionnées l'une par l'autre, avec cette passion qui dure à travers le temps, les âges malgré tout. Et c'est méga gaulé. Du coup, forcément, vu que j'avais ça en tête, en plus le personnage s'appelle aussi Gloria, j'avais ça en tête, j'ai eu du mal du coup à adhérer à cette passion amoureuse quand j'ai cette passion et ce background de folie en tête.
De toute façon, le symbolisme religieux, il est partout dans le film, rien qu'avec les prénoms choisis, Paul et Gloria. Puis Gloria, c'est un peu la diablesse hein, quand même, habillée de rouge. Bon, c'est un petit peu violent quand même. À un moment, il parle de serpent. Voilà. Enfin, on sent quand même que c'est la tentation du petit ange qui jusque-là était dans son petit paradis, mais un faux paradis hein, d'ailleurs, parce que la mer, voilà. Et c'est un petit peu. Il doit y avoir une métaphore derrière, mais bon. Je sais pas s'il y a une critique de la religion en tant que telle, parce qu'il a fait un film qui s'appelle Calvaire. Donc, on peut toujours chercher aussi. Mais bon. Après, on peut toujours creuser. Mais bon, ça après.
Il y a du divin partout. À travers tout, on parle souvent du divin. Ouais.
Un dernier petit mot avant de te laisser la parole.
Moi je vais juste renvoyer sur le prochain film.
Alors, c'est prendre la parole.
C'est ça, oui, totalement. Donc, adoration, c'est quand même quelque chose aussi d'intéressant dans sa façon de filmer ses personnages. Dans ce que tu critiques, c'est particulièrement une mise en place d'un lieu où on a du mal à localiser, avec une caméra qui a peur de quitter ces personnages. On sent qu'il y a toujours une volonté de prolonger des plans pour éviter de trop couper. On sent qu'il y a un besoin de prolongement des scènes pour faire sentir une sorte d'inquiétude. Et c'est qui est intéressant, c'est qui est beau. Et puis par rapport à ces personnages talentueux qui arrivent à amener une certaine tendresse, à épouser la caméra. Là, j'utilise des termes un peu gros et tout, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est aussi ce rapport au son, ce rapport à des fois à cette musique qui est légère, mais qui crée des suspensions. Donc il y a, par moments, il y a des moments où il y a plus du tout de son diégétique, donc de son qu'on entend dans le film, dans l'histoire. Mais là, c'est particulièrement des sons extérieurs qui soulignent des moments de grâce, des moments. Et c'est vraiment ça qui est génial, c'est qu'on est perdu dans les sens, dans le comportement de personnages qui ne semble pas forcément logique, mais qui nous emmène dans un lieu, un univers totalement fou et illogique. Voilà mon avis. Allez le voir.
C'est de ça que je parlais quand je parle de phrases courtes.
Tu couperas.
Mais non, justement, parce que le point, il est au bout de 2 minutes, donc c'est assez compliqué.
Et les acteurs sont bons, moi, je trouve. Les deux jeunes acteurs sont quand même très bons, ils sont à fond dans le truc. Alors, ça peut paraître maladroit, mais les personnages, le son en soi...
Ouais, le gamin, la fille, c'était plus compliqué pour la fille. Après, elle doit jouer des crises d'hystérie, de parano, c'est compliqué aussi. Il faut pas non plus.
La révélation Thomas Jurien se confirme pour moi, en tout cas.
Adoration, un film de fin d'année de lycée, comme disait Hera en sortant de la salle, hors micro. Oh
bah, tu vas garder ça comme conclusion.
Non, mais là, c'est
hyper, c'est, non, mais c'est hyper orienté là.
Ouais, grave, je suis d'accord avec toi.
Mais qui est en adoration de ce film? Vous avez bien aimé, mais non, en adoration, pas à ce point.
Oui,
t'as le micro, mais il y a une majorité de personnes qui aiment, donc tu refais cette conclusion. Non, merci.
Un bon film de fin d'année de lycée. Non, bon, toujours pas.
Non.
Bon, bref. Un film qu'une partie de l'équipe a bien aimé. Une autre partie qui est très, 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 très loin de l'adoration.
Qui est minoritaire en plus de ça.
T'as vu comment il sentait racler le bien aimé, tu vois.
Il allait chercher loin, le bien.
Vous n'êtes pas en adoration non plus, vous n'êtes pas en pamoison. Voilà.
Oui, non, mais bon, de la sentir que c'est. Enfin, non, mais enfin, on s'en fout, on va pas débattre. On va pas débattre du ton de ta conclusion.
Voilà. Allez vous faire votre propre avis. Si vous avez la malchance qu'il passe près de chez vous.
C'est marrant.
Est-ce qu'on a dit que c'était en 35 mm et que du coup la numérisation était dégueulasse?
Et qu'il n'y avait pas de trépied aussi.
Et qu'il n'y avait pas. Mais oui, ça tremble, on l'a dit. Ça, c'est... Et pas de chef-op non plus. Non,
oui. Personne ne s'occupait de la lumière, hein, c'est pas possible.
Si, le gamin avec sa lampe à filtre là.
C'est pas le jeune Ahmed. Hein.
Oh,
ça tremblait plus que le jeune Ahmed. On va se changer complètement les idées avec le prochain film. Est-ce que les mauvais garçons restent avec nous? Non. Non, je ne crois pas.
I'm done, Mike. I'm retiring.
Uh-oh, here we go again.
You want your legacy to be muscle shirts and body counts?
Look at this mess, it's carnage!
I didn't do all this.
You didn't shoot anybody?
Well, come on, Cap, you know I shot some people.
Yeah. Fuck me! Fuck! Fuck! Fuck!
Allez, c'est bon, on a dégagé tous les intellos. On va passer à du vrai cinéma maintenant, ouais. N'est-ce pas Thierry?
La castagne, boum.
Voilà, il ne reste que le groupe de vieux mauvais garçons, moi et Thierry, mais il y a quelqu'un pour nous chaperonner, pour nous calmer un peu. Yassa, salut Yassa.
Salut Thomas.
Ça faisait longtemps, mais tu viens toujours pour les valeurs sûres. Hein.
Eh ben oui, hein, je suis une mauvaise fille.
Waouh. Alors, Bad Boys for Life, à la vie, à la mort. Et c'est dans ces moments difficiles qu'on voit les vrais amis, j'ai envie de dire. Troisième opus de la magnifique licence Bad Boys, avec toujours Will Smith et Martin Lawrence, qui jouent nos bons vieux Bad Boys. Mais cette fois-ci, c'est pas réalisé par Michael Bay. C'est réalisé par le duo Adil El Arbi et Bilal Fallah.
On les embrasse.
Voilà. Nos vieux, les vieux inspecteurs reprennent du service. Enfin, ils sont sur la fin de carrière, ils se font vieux, mais... Et quand une série de personnalités de la police, des juges, des procureurs et Will Smith qui se font tirer dessus, les deux flics reprennent du service. D'un côté, on a le Will Smith qui joue Mike Lowry, qui veut jouer le flic toujours jeune, toujours en activité. Et de l'autre, on a Martin Lawrence qui joue Marcus Burnett, qui lui veut prendre sa retraite, 30 kills pépouze, ce qui nous donne des scènes croquignolesques, drôlatiques.
Vu le nombre de blagues sur ses couilles qu'il y a dans ce film, tu peux tout à fait l'appeler Burnett, hein. C'est vrai que...
Exactement, je croyais qu'il allait y avoir des blagues de paix, c'est des blagues sur les couilles. Effectivement.
C'est quoi cette sacoche? C'est pour tes couilles? Elles sont où tes couilles? Tu t'es assis dessus? Alors c'est où tes couilles? Tu mets dans ma tagan? Waouh!
Tu vas direct, hein. Tu vas direct, c'est ouais, bon?
Non, mais c'est juste pour dire que Marcus Burnett, quoi.
C'est ça. Et pour les aider, il y a une équipe de genoux pour leur dire qu'ils sont vieux, il faut leur mettre des genoux à côté. Le hameau, la munition qui les aide. Et c'est quoi? Alors c'est une espèce de squad d'intervention spéciale, mais c'est un mélange avec les experts à Miami. Et alerte à Hawaï parce qu'ils sont tous méga beaux gosses. C'est incroyable, avec des méga brushing.
Non, c'est un petit, je l'ai pris un petit peu comme la petite touche OK Boomer, quoi.
C'est ça, c'est la touche OK Boomer. Et nous, en intervention, on y va avec juste un petit gilet pare-balles, un débardeur et un jean moulant pour mettre bien nos fesses en valeur. Et c'est parti, quoi.
À l'ancienne.
Voilà, voilà. Qu'est-ce que c'était con.
Qu'est-ce que c'était naze, surtout, quoi. Et c'était où, Bad Boys? Enfin... Je veux dire, ce que t'attends quand tu vas voir un film Bad Boys, c'est ce côté décomplexé, ce côté autant dans l'action où ça va tourner dans tous les sens. Bon, c'est la touche Michael Bay, c'est la Bayhem qui fait ça, mais tant dans les dialogues, ça va à fond la caisse sur n'importe quoi. Là, c'est un Bad Boys version 2019, enfin, version 2020. C'est clairement ça, c'est la version où, attention, faut choquer personne. Donc, on a un personnage qui va venir s'excuser de toutes les blagues pour les désamorcer parce qu'il faut pas les faire. Mais alors du coup, faites pas un Bad Boys, c'est tout, puisque Bad Boys, c'était juste pour dire, tu te rappelles l'ancien temps, comme c'était marrant, on va pas faire exactement pareil parce qu'on peut pas aller aussi loin. Mais alors le faites pas. Bad Boys, c'est aussi un symbole comme ça. Je veux dire, si c'est juste, faites un film d'action avec Will Smith et Martin Lawrence qui s'appelle pas comme ça. Si c'est pour faire un film correct.
Faut que les réalisateurs, les producteurs, les scénaristes arrêtent de foutre en l'air des sagas, des licences. Il y en a marre d'aller piocher dans des trucs qui étaient bons, d'accord. Ça dépend des goûts, mais ça va. Moi, j'aimais bien le Bad Boys. Donc,
pas un Bad Boys, c'était quand même pas très bien à la base. Hein.
Oui, mais bon, ça va, on s'éclate. Donc, ça pète de partout, c'est génial. Tu vois.
Bad Boys, c'était il y a 25 ans, quand même.
Ouais. Non, mais il y en a marre. Et le recyclage, c'est pour l'environnement. Il y en a marre de recycler les films. Sérieusement, j'en peux plus de ces trucs où, en fait, on te fait bouffer des dialogues qui n'ont aucune saveur. Il n'y a aucune continuité. J'ai eu l'impression de voir un nanar, littéralement un mauvais nanar, mixé avec de la telenovela. Sérieusement.
Oui, mais oui, il y a ça. En plus, ils vont au Mexique. Alors, il y a une mode en ce moment dans les sagas à licence d'aller faire un tour au Mexique. Il doit y avoir un crédit d'impôt, un truc, je ne sais pas quoi.
Non, c'est ça, pour moi, c'est clairement le côté l'air du temps. Le Mexicain, maintenant, pour l'Américain moyen qui vote Trump, hein, c'est l'ennemi. C'est pas étonnant, mais après Bad Boys, c'est pas nouveau non plus. Je veux dire, ils s'étaient déjà battus contre des cartels dans l'épisode précédent, hein, donc en soi.
Non, mais là, il va au Mexique. Il y avait quoi? Il y avait Stallone, il y avait Rambo, il va au Mexique aussi. Terminator, il va au Mexique aussi.
Ça, c'est pour le côté air du temps, c'est l'antagoniste. Hein.
Mais quand je dis telenovela, c'est pas à cause du Mexique que je dis ça, c'est à cause des putains de dialogues de merde que j'ai l'impression de.
L'affaire avec le fils caché, non, ça va.
Non, en plus, c'est un Dark Vador inversé, c'est tu es mon fils. Hein.
Je suis ton père, quoi.
Oui, voilà.
Non,
oui.
Non, il n'y a pas dit ça. Et
je suis un bon papa.
Voilà, c'est ça. Putain, on était quand même sur le seul personnage où Will Smith pouvait dire allez, je me lâche une dernière fois avant de refaire le meilleur bon papa. Et même celui-là, il a exigé, parce qu'il est quand même producteur exécutif sur le truc, hein, il a fait sa demande de producteur en mode je dois être un bon papa et balancer mes vieilles valeurs à la con. Bordel, Will Smith, arrête. Fais du télévangélisme, quoi. Je veux dire, t'as plus envie d'être acteur là, t'as juste envie de balancer tes valeurs, quoi. Je veux dire, ça suffit.
Franchement, je pensais tellement que à la fin le fils allait rejoindre l'équipe de flics pour bouffer pour le barbecue ou je sais pas quoi qu'il préparait.
Vu la scène post-générique, ça c'est l'épisode 4 ça.
Mais tu vois là ma théorie elle se confirme là du coup avec ouais, il y a une scène post-générique qui annonce Bad Boys 4 visiblement qui sera peut-être réalisé par Michael Bay donc au moins ce sera à la limite regardable. Voilà le flic de Beverly Hills 4, un prince à New York 3, tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit, je pense que les frères Rousseau sont arrivés, ils ont pété sur la machine à idées, ça a tout cassé, et du coup on ressort ça, tu vois, on fait ce qu'on peut, voilà. C'est affreux, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, après, parlons du film, au-delà du fait qu'il soit inclus dans Bad Boys, qu'est-ce que ça donne? Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que dans les scènes d'action, qui essayent de faire du Michael Bay sans faire du Michael Bay, parce que clairement, ils n'ont pas de budget.
Les deux scènes d'action.
Mmh, oui, voilà. Je me disais, il y a l'idée dans la chorégraphie de l'action. Le problème, c'est que le découpage est tellement mal dosé que c'est irregardable. Ne serait-ce que par exemple, je sais pas, on pète une verrière qui est au plafond, il y a un bout de verre qui tombe et qui va s'éclater dans la gorge du gars. Ben, ça peut être fun à regarder. Quand tu regardes Six Underground de Michael Bay, le film, on a dit la semaine dernière qu'il était assez irregardable et assez mauvais, mais au moins ça, tu le vois. Ça, c'est fun à regarder. Tu te dis, oh, putain, ça va tellement loin, c'est n'importe quoi. Et limite, moi, c'est ça que j'avais envie de voir dans Bad Boys. Et putain, voilà quoi, entre Martin Lawrence qui toutes les 3 secondes fait ses scènes de bigoterie pour dire « Ah non, non, je vais désamorcer toutes les scènes, parce que moi je tirerai pas, parce que moi je frapperai pas. » Ah, oh, bordel, le rétro-pédalage toutes les 3 secondes, quoi.
Il y a deux choses qui m'ont extrêmement énervé, enfin, oui, niveau image, hein. C'est un montage fait avec les pieds, c'est-à-dire que ça cut, ça tremble, c'est l'image, il y a des travelling qui sont flous, franchement, j'avais mal aux yeux à un moment donné, hein. C'est incroyable. Et on a des ralentis qui sont absolument pas épiques, c'est-à-dire qu'on a Will Smith qui roule sur un skateboard en train de tirer, mais ça n'a aucun impact, ça n'a pas de portée, ça n'a rien du tout. Et je suis là, mais pourquoi vous faites un ralenti à ce moment-là? Vous auriez pu le faire bien avant ou après, quand la carotide du gars elle explose, je sais pas moi, quand il plonge. Mais là, il y avait deux ralentis qui sont passés comme ça et qui n'ont servi absolument à rien. Il y a le shot épique qu'on a d'habitude dans les Bad Boys où la caméra remonte, où ils sont tous les deux comme ça, et là ça tombe complètement à plat, mais c'est le soufflet qui retombe. C'était je pleurais, mais de désespoir, sérieusement, c'était horrible.
C'est vrai que les contre-plongées étaient anti-épiques, parce qu'ils ont quand même morflé avec le temps, les deux, hein. C'est pas pour dire, mais... Et puis non, puis à aucun moment ils sont héroïques, ni pathétiques, parce qu'ils sont à peu près, ils sont bien tout le temps, à peu près. Will Smith se prend des balles dans le bide au début du film, mais c'est Will Smith, donc il n'y a pas d'incidence. Mais après, dès qu'ils vont partir à l'action, y a les genoux qui viennent les aider. Et en plus, il y a des tirs, on les voit tirer, on ne sait pas trop sur quoi. Ils tirent à découvert comme ça, il n'y a pas de sensation de danger à aucun moment, quoi.
C'est le découpage chaotique qui fait ça, et c'est ce que tu dis, ça manquait de rythme en fait. Et c'est vrai qu'on s'était déjà fait la réflexion, je crois que c'était sur Hobbs & Shaw, on est sur une ère post-John Wick. John Wick qui a enfin rendu quelques lettres de noblesse aux scènes d'action, en mode, rappelez-vous comment on les filmait bien, et ce serait bien de les refilmer comme ça. Et là, quand c'est pas rythmé au minimum parce que tu veux faire du montage à tout prix pour pas voir l'action, ça donne ça. Mais autant, oui, Will Smith, ça va encore parce qu'il a un côté énergique. Bon, il a sûrement une bonne doublure, mais c'est un gars en même temps, quand tu vois ce qu'il a fait dernièrement, il a maintenu ce côté actionneur. Il a fait Gemini Man, il a fait des trucs où le mec se maintient en forme, il se fait un peu à la Tom Cruise où il fait des trucs. Le problème, c'est Martin Lawrence. Et autant, moi, j'y vois toujours Martin Lawrence, un Roger Murtoff, dans une version hardcore de L'Arme Fatale. Sauf que Roger Murtoff, il joue sur le côté vieux, il veut aussi prendre sa retraite, mais quand il faut aller cake, au bout d'un moment, il se lève, il va au cake, les mecs, ils s'éclatent Jet Li à la fin du quatrième, et ils ont le même âge. Là, y a pas ce moment où on se dit, Martin Lawrence va se lever, va y aller, va foutre va éclater les méchants, et va au moins se battre avec lui, non. Je dirais, il fout un coup à la nana, et après il glisse, quoi. Parce qu'il faut qu'il glisse, parce que le but, c'est de montrer Martin Lawrence qui chute et qui fait des chutes, parce que maintenant, il est tout gros, il est tout vieux, alors c'est marrant. Il n'y a pas ce côté héroïque du « Ouais, c'est un bad boy, il n'est pas là pour rien ». Pourquoi est-ce que Mike, du coup, le personnage de Will Smith, veut absolument repartir en mission avec lui, alors qu'il sait pertinemment que le mec est incapable maintenant de faire ça? C'est pas parce que c'est ton pote. Là, ton pote, ça va être un boulet dans le pied, quoi.
Alors, je sais pas vous, comment vous l'avez vu, mais moi, franchement, j'ai l'impression que le jeu de Martin Lawrence était... dégueulasse.
Il articulait jamais,
il avait l'œil vide, je sais pas, mais il y a des scènes où il parlait et je te jure, je voyais son œil, il exprimait absolument rien.
C'est le strabisme, ça. Non, ça c'est...
L'acteur studio, il était en train de se préparer pour Big Mama 4.
Ça doit être ça. Il a même plus besoin de maquillage.
Et Flic de Haut Vol 2, parce qu'il fera que des suites, de toute façon.
Mais Thierry, quand tu disais que Will Smith, il était là, il avait la pêche, tout ça, j'ai absolument pas retrouvé le Mike des deux précédents Bad Boys. Hein. Il n'y avait pas la petite étincelle qu'on a d'habitude. En fait, les deux personnages commencent à s'éloigner l'un de l'autre, et en fait, ils fondent un petit peu chacun de son côté, tu vois. Et il n'y a plus ce ping-pong, en fait, verbal entre eux, tu vois.
Est-ce que vous avez vu la série L'Arme Fatale? Parce qu'on revient sur ce parallèle-là. La série L'Arme Fatale, quand tu la regardes, t'as l'impression justement de voir deux gars à qui on a demandé de jouer Mel Gibson et Danny Glover, et c'est naze parce que l'alchimie entre les deux fonctionne pas, parce que c'est une alchimie qu'on connaît depuis longtemps. Là, j'ai eu l'impression de voir ça, l'impression qu'on demandait à deux autres acteurs de refaire Will Smith et Martin Lawrence, et du coup, tu les vois vite fait parce qu'ils y ressemblent, mais c'est pas eux. et c'est pas ces persos-là. Et ça, c'est pas faux non plus, c'est pour ça que je te rejoins là-dessus. Mais ça, je pense que c'est plus une question d'écriture que de eux, j'imagine, qu'ils ont mis... Allez, au moins Will Smith, parce que malgré tout, il s'implique, vu que de toute façon, il veut balancer ses morales à la con. Il s'implique un minimum, les deux gars, mais c'est tellement mal écrit, qu'est-ce que tu veux faire avec ce matériau-là? Voilà, quoi. Putain, quand on vient à regretter Michael Bay, c'est triste, quoi.
Bon, ben, dans 10 ans, on pourra dire que Bad Boys 3 est un nanar, hein.
Tout de suite, même, hein.
Oui, oui. Dire, il faut laisser le temps aux gens de...
Non, tout de suite. Bon, ben, merci, Yassa, c'était quand même cool.
Ravi d'avoir pu assister à ce désastre, hein.
Est-ce que tu as quand même, en dehors du film de la semaine, est-ce que tu as d'autres films que tu as vus, ou séries ou autres, est-ce que tu as une petite reco, un truc?
Je vous recommande d'aller voir l'Expo Tolkien qui a lieu à la BNF jusqu'au 16 février. C'est magnifique. Si vous ne connaissez pas très bien, vous allez découvrir énormément de choses. Et si vous êtes fan, ben, vous allez faire comme moi et y aller plusieurs fois de suite. Parce que franchement, on n'en a jamais assez.
Merci Yassa. Thierry, toi-même, est-ce que tu as vu autre chose durant la semaine? Alors nous, on en a vu un qu'on n'a pas enregistré. C'était cas contraire.
Ouais. Moi, j'ai pas trouvé ça dingue, je sais pas pour toi, mais...
Moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai bien aimé le fait que ça soit très sec, que ça soit ramassé, que ça soit coupé. Enfin, sec dans le sens, il n'y a pas de gras, on perd pas de temps sur des trucs inutiles, on rallonge pas inutilement les choses. Cas contraire, c'est un film de Sarah Marx avec Sandor Funtink, Sandrine Bonner et Alexis Monanti qu'on avait vu dans Les Misérables. C'est l'histoire d'un jeune qui sort de tôle et qui a besoin d'argent parce que sa mère est en dépression, donc il lui faut une aide à domicile. Lui-même, il a un travail pour la conditionnelle, mais s'il gagne le SMIC, donc il ne pourra pas payer. Enfin, il a besoin de pognon. Du coup, il rentre dans un deal dans du trafic de kétamine pour les soirées électro. Donc, ils vont essayer de monter ça avec son pote. Et visiblement, les mecs, c'est pas des experts. Enfin, c'est compliqué. Voilà. C'est assez la misère. Tout le monde a besoin de pognon. En fait, tout le monde, toutes les personnes impliquées dans le trafic ont besoin de pognon et donc doivent du pognon à quelqu'un et ont besoin de pognon. Lui-même, il a besoin de pognon. Son complice a besoin de pognon. L'aide à domicile qu'il aide son ex l'aide aussi. Mais bon, ça fait un moment qu'elle fait ça, donc elle peut pas faire ça gratuitement au bout d'un moment. Tout le monde a besoin de vivre. Donc, en fait, tout le monde a besoin de thunes et tout le monde est dans la merde. En fait, les misères se télescopent. Un peu dans ce film.
C'est ce côté un peu misérabiliste qui m'a gêné, même si en soi, c'est vrai que ça change de l'image des gangsters qui s'en sortent, qu'on plein de thunes. Et... De toute façon, tu te doutes bien que les seuls qui ont bénéficié de ça, c'est les mecs qui sont au-dessus, qu'on ne voit pas, et que là, on te montre que des mecs qui sont compagnons de galère au final, même s'ils sont tous les uns contre les autres, parce qu'ils essayent de tirer leur épingle, mais qu'au final, ils se font tous entuber. Mais ouais, je sais pas, c'est peut-être cette vision-là, même si elle est très réaliste au final, qui m'a pas convaincu, parce qu'il y avait un côté justement très froid, très chirurgical, qui m'a pas permis d'entrer dedans. J'ai pas ressenti d'empathie pour ces personnages, et j'ai pas eu envie que certains y arrivent plus que d'autres, en fait.
Bon, ça m'a plu, parce que des films qui se la racontent et qui perdent du temps à raconter n'importe quoi, ça me saoule aussi au bout d'un moment. Donc voilà. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Voilà. J'ai préféré ça à Adoration, par exemple. Tant qu'on était dans la série B avec Bad Boys, je pense aussi, j'avais vu aussi qu'un sang impur ce matin aux attendants de Abdel Raouf Dafri, qui était un film que j'attendais. C'est un film qui se passe sur la guerre, enfin c'est un film sur la guerre d'Algérie. Donc on voit pas souvent des comme ça. C'est bien qu'on ait ce genre de film. Et en plus, c'est un film qui est très porté sur l'identité, qui est très noir. On le voyait dans l'esthétique, dans les bandes annonces. C'était un film qui avait l'air sérieux, qui avait l'air dur, qui avait l'air fort. Et quand on voit le film, c'est dur, c'est fort. Effectivement, c'est pas propre, quoi. Tout le monde est une belle bande de salauds. Il y a une scène dans un camp français où l'armée française fait des trucs dégueulasses. Et les renégats algériens, le FLN, font des trucs dégueulasses aussi. Donc en fait, bon, c'est très très sale, tout le monde en prend plein la gueule. Mais ce film que je croyais sérieux, en fait, au fur et à mesure que le scénario se développe, en fait, c'est un film de série B. C'est l'histoire d'un commando qui doit aller chercher le corps d'un gars en plein territoire ennemi tenu par les renégats. Et donc on monte un commando Benetton, c'est-à-dire que on a le français naturalisé, on a le français entre guillemets de souche, mais attention, il a un tatouage sur la tête pour dire que c'est un peu un déglingo. Oui, un tatouage sur le visage dans l'armée française dans les années 60. Oui, oui, pourquoi pas. Écoute, c'est peut-être pour ça qu'il nettoie les latrines, alors qu'il s'est tiré sur un mec à 500 mètres avec un sniper. Allez comprendre. Bon, très bien. On a la ressortissante, celle qui est venue en France après la guerre d'Indochine. On a la fille de Harki, non, elle n'est pas Harki, justement. On a la jeune maghrébine, la jeune algérienne, fils d'ancien soldat algérien qui s'est battu pour la France pendant la Seconde Guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a toute une équipe comme ça, très divisée, avec des archétypes, chaque fois, avec la rebelle, celui qui veut sauver les enfants, celui qui veut tuer de l'arabe, oui, parce que c'est clairement dit, hein, c'est le mec de l'armée française qui vient pour ça. Et on a plein d'archétypes comme ça. Et les scènes et les dialogues sont d'une platitude ahurissante. Moi, j'ai pas été trop choqué par Bad Boys parce que j'ai vu ce film avant. C'est triste qu'aux horreurs de la guerre d'Algérie, qui sont vraiment affreuses, ils ont rajouté les dialogues et le jeu d'acteur qui est pas au niveau de l'enjeu, quoi. Enfin bon, voilà. Donc, une série B qui s'assume pas, c'est dommage.
Tu parles de Bad Boys, du coup. Alors, c'est un autre truc. C'est pas un film qui est sorti là récemment. En fait, on avait vu I See You. Pif de Adam Randall, et je me suis intéressé du coup à ce qu'il a fait. Je me suis aperçu qu'il avait fait un premier film sur Netflix qui s'appelle High Boy, et j'ai regardé. Voilà, donc on peut en parler vite fait. C'est pas très très bien, et c'est surtout la preuve que Netflix, quand ils prennent pas un auteur connu, ils en font n'importe quoi. C'est un film de commande pas terrible. Le sujet pouvait être intéressant, c'est l'histoire d'un gamin qui, dans les espèces de banlieues anglaises un peu sales, est plus ou moins amoureux d'une nana, veut aller la voir, sauf que quand il arrive, il y a un braquage qui est chez cette fille. Le gars s'enfuit. Il se prend une balle dans la tête, mais il avait son téléphone, et une puce de son téléphone rentre dans son cerveau, et à partir de là, il se réveille avec la capacité de contrôler tous les éléments électroniques autour de lui. Du coup, il va commencer à faire du chantage auprès des gars, parce qu'il sait qui c'est concrètement, donc il va leur faire du chantage avec leur téléphone, avec plein de trucs. Sauf que, c'est du édulcoré Netflix à deux balles, avec des gamins, leurs personnages sont beaucoup trop âgés par rapport à l'âge des acteurs. C'est ultra teen friendly, et ça se tient pas pour dessous, quoi. Voilà.
Mais est-ce que ça peut être pire que le film devant lequel on a amené Marwan ? Non, parce que on a amené dans la semaine, on a fait une blague à Marwan, on l'a amené voir un film, on l'a amené voir Merveille à Montfermeil. Ça passait dans pas beaucoup de salles à Paris, donc dans le reste de la France, je ne sais pas. De Jeanne Balibar, avec un casting de folie, Emmanuel Béart, Ramzi Bedia, Mathieu Amalric, Philippe Catherine. Mais où est l'argent ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, c'est pas de l'argent, c'est pourquoi ils en ont eu, tu veux dire ?
C'est waouh, c'est film, on ne sait pas comment, c'est sur le vivre ensemble à Montfermeil, c'est une espèce de mairie un peu de gauche, un peu illuminée, qui fait on va faire du vivre ensemble, on va apprendre 36 langues à tout le monde, on va faire des journées spéciales pour tout le monde, on va faire une journée du kilt, une journée du kimono. Et c'est plein de situations assez hallucinantes, ça se veut humoristique, mais en fait c'est gênant, c'est assez gênant. Bon, qu'en a pensé Marwan, on écoute. Marwan, t'as pensé quoi de Merveille à Montfermeil ?
Alors, il y a des films qui font souffrir mais qui sont bien. Il y a des films qui sont mauvais. Et voilà. Et là, c'est les deux en même temps. Donc c'est un film qui te fait souffrir profondément, au plus profond de ton âme. Il te dit voilà ce qu'il faut pas faire. Et qui te donne envie constamment de quitter la salle. Et en plus, c'était très mauvais. Voilà. Merci.
Merci Marwan. Putain, c'est n'importe quoi cet enregistrement. Ça a tellement scandalisé les gardiens quand ils ont entendu qu'on parlait de Merveille à Montfermeil qu'ils nous ont foutu dehors.
Ouais, je les comprends. Mais oui, comme tu dis, mais qui a financé ça ? Alors Mathieu Amalric a produit en partie, mais il s'est passé quoi ? Jeanne Balibar l'a bizuté, elle lui a fait des brûlures indiennes et elle lui a dit « Si tu veux que je joue dans Barbara, tu viens jouer dans ma merde ?» Enfin, ça se trouve, il serait foutu de kiffer ce genre de délire en plus complètement. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est loufoque ce truc. Tu vois, moi, Balibar, c'est vrai que quand tu vois Barbara, j'en avais une image de la nana, certes un télo, certes qui se branlote sur des sujets en mode t'as vu mon symbolisme, comme je suis trop forte, mais ultra chiante. Donc je pensais pas qu'elle tenterait de faire de l'humour par-dessus ça.
Non, mais c'est. Il y a des moments, il y avait des idées de mise en scène, on aurait dit du théâtre subventionné. C'est des idées de scène. Alors je pense que c'est de l'humour de théâtre subventionné. Ça se veut très intellectualisé, mais en fait. Moi, je suis content de l'avoir vu. Ça va me permettre de niveler, d'avoir des références dans l'échelle des films.
C'est le Masque et la Plume qui disait que c'était qu'on tenait là le premier nanar de l'année. Je plus sois.
Ah, enfin, en tout cas, celui-là, il est puissant. Celui-là, il est très, très, très fort. Non, c'est bien. Entre ça et 1917, la semaine suivante, où là, c'est plutôt l'échelle haute qui est calée, là, j'ai mes outils de comparaison pour l'année. Je suis content.
Voilà, ça va être très très dur le top flop cette année. Pour aller les battre, ces deux-là, il va falloir aller les chercher. D'autres mots? Non.
Bon, écoutez, voilà, c'est 1h du mat, on se fait sortir du cinoche, voilà. C'est un peu normal aussi en même temps. Ah, je crois que Jus a un truc à nous conseiller aussi. Alors si dans les films de la semaine aussi rattrapage, bon, l'équipe de Claque n'a pas vu La Belle Équipe, mais Jus de Melon est venu exprès pour nous en dire en quelques mots ce qu'il pensait de ce magnifique film avec Kadmerad et plein d'autres bons acteurs.
On a été gentil de lui dire, bon allez, viens quand même voir un autre truc, parce qu'à la base il venait juste pour ça. Hein.
Oui, un film de Mohamed Hamidi, hein, pardon. Bah, disons qu'Une Belle Équipe, c'est un téléfilm de France 3 du dimanche soir. Pas forcément réussi, avec pas mal de clichés, avec des acteurs qui sont pas vraiment concernés et surtout une histoire qui part un petit peu en vrille. C'est dommage parce que la thématique était pas inintéressante avec le football féminin et tout, mais ça s'est transformé un petit peu à la foire à la saucisse du village avec des stéréotypes qui vont avec et avec une réalisation à plat quoi. Donc un film qui est pas vraiment vraiment intéressant, on va dire ça comme ça, et Kadmerad qui est en roue libre, on sent qu'il est venu là pour son pote en fait. Voilà. Donc Une Belle Équipe, franchement si vous avez rien à faire, mais je pense qu'il y a mieux.
Une Belle Équipe, un beau navet.
On va dire ça, oui.
Merci, Jus de Melon.
Mais merci à vous.
Alors Marwan, bon. Du coup.
Marwan, il arrive à se grappiller des petites minutes d'audience, tu sais.
Bon, du coup, on t'a amené l'autre jour en douce pour voir un assez mauvais film. Ouais, est-ce que t'as quand même une reco, un truc qui t'a fait plaisir dans la...
Parce que c'est vrai que vous m'avez pas dit hein, quel film on allait voir, et d'où la souffrance. Mais oui, un film vraiment très très bon, qui est encore une fois français. C'est Un Vrai Bonhomme, de Benjamin Parent, qui, sous ses airs de teen movie, arrive à porter une histoire de deuil et puis de découverte de lycée, mais vraiment incroyable, par rapport à des procédés connus de tous, mais qui ne sont pas forcément des cliffhangers ou des surprises, et c'est ça qui est génial. Allez le voir.
Merci Marwan.
Merci à vous.
Merci.
Mais attends, je comprends pas, ils sont où? Parce que pourquoi ils ont parlé là?
Ils sont dans ma poche, regarde.
Waouh!
C'est la magie des enregistrements.
C'était Certains les Machos. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Et merci Yassa.
Merci Thomas.
Tu veux pas utiliser la magie des enregistrements pour mettre une conclusion que tu as déjà dite?
Non, jamais. Jamais. Je tiens absolument à faire mon truc de fin. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout et à suivre à chaque fois. Je ferai ça pendant 20 ans. Je ferai ça. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, mais partagez sur les réseaux sociaux, commentez, parlez-en autour de vous, ça nous aide énormément. On ne le lit pas assez, mais c'est vrai que chaque fois que vous tweetez, que vous faites une petite notation, un petit hashtag, un petit arrobase, un petit tag, une petite story, un petit truc, ben ça nous aide. Et que vous en parlez à vos copains, ben partagez, ça nous aide énormément. @claquepodcast, CLAAC podcast. Et sur toutes les bonnes applications de podcast, Certains les Machos. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et on va voir des enfants nazis. On va au Jeunesse Hitlérienne la semaine prochaine.
Ouais!
À bientôt, bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Bye.
Sacré bombe basse, hein, si tu mets pas ça.
Non, oui. On a la virgule. Merci. Ça, c'est un beau cadeau, ça. Non, mais je vois bien le montage avec Charlize Theron.
Et sacré bombe basse, hein.
Nicole Kidman.
Et sacré bombe basse, hein.
Et Margot Robbie.
Et sacré bombe basse, hein.
Et pour jouer ben, le grand méchant de l'histoire, John Lithgow.
Et sacré bombe basse, hein.
Thierry, là.
Tu pourras le mettre dans le bêtisier, ça, si tu...